L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion. Aujourd'hui, notre émission mensuelle en compagnie de l'Université des sciences et pratiques gastronomiques, l'USPG, qui nous propose donc cette saison de découvrir les métiers de l'alimentation. Alors il y en a des milliers et on commence à bien connaître celui de cuisinier grâce à Xavier Hamon, qui a fondé l'USPG, qui milite pour une autre vision plus large de ce métier, justement, et de ses métiers. Car nourrir les gens, ce n'est pas seulement travailler des produits dans sa cuisine avec sa toque et son tablier. Ce n'est pas seulement jouer du couteau et du piano. L'alimentation, nous la pensons dans son ensemble. Aujourd'hui, on la pense dès la semence. Xavier Hamon est donc venu accompagné de Stéphanie Salio, qui a créé en 2015 des fruits et des fleurs. Une pépinière biologique au sein, c'est dans le Morbihan, mais on n'est pas raciste. Elle y cultive des plantes comestibles et ou utiles pour les jardins, pour les balcons, pour la cuisine. Plus de 300 variétés d'herbes aromatiques, des fleurs comestibles aussi, des petits fruits. Elle nous expliquera comment elle sélectionne ses graines. Elle dit du jardin, une phrase que j'aime bien, il n'est plus vu comme un lieu refuge, ni comme une bulle de bonheur, mais il est devenu un lieu de réflexion. Stéphanie, Xavier, bonjour.
Bonjour, bonjour. Véronique.
En fait, je ne suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est aussi une bulle, le jardin, mais bon. Alors Xavier, déjà, pourquoi avoir fait venir Stéphanie ?
Alors Stéphanie, parce que comme tous les gens qui vont intervenir lors de cette saison, elle va nous expliquer tout ce qui est derrière l'image qu'on peut avoir de son métier, qui est souvent une image réductrice. Quand on parle d'alimentation aujourd'hui, quand vous voyez tous ceux qui prennent la parole sur les sujets alimentaires, qu'ils soient élus, techniciens, référents ou organisations, on a l'impression que produire, c'est pas compliqué, c'est un plan, une saison, un arrosage, une récolte.
Terminée. Une saison et encore, ouais, souvent,
oui.
On oublie. Hein.
Souvent on oublie. Bah,
c'est vrai, on parle de, quand il y avait la crise des lasagnes au cheval, c'était carrément, on parlerait de minerais, on oubliait carrément qu'on travaillait sur du vivant, quoi.
Exactement, et moi j'ai trouvé que cette année on avait besoin de rentrer en profondeur dans ces métiers-là, qui sont vraiment des métiers nourriciers, effectivement, parce qu'ils nous nourrissent physiologiquement, mais ils nourrissent bien d'autres choses, des réflexions, des paysages, une culture. Et c'est tout ça la richesse du métier, ne surtout pas le réduire à un acte de production, de vente, et qui se résumerait à une politique alimentaire. Mais derrière la politique, il y a des gens qui font. Et c'est eux que j'avais envie d'inviter cette année à nous expliquer ce qu'ils font au quotidien.
Et donc Stéphanie Salio fait. Alors que faites-vous, Stéphanie ? Expliquez-nous exactement des fruits, des fleurs.
Alors, des fruits, des fleurs, c'est une pépinière effectivement créée depuis 2015. On travaille à trois maintenant sur la pépinière. Donc, je suis très fière de dire que ça nourrit trois personnes.
Ça crée de l'emploi, voilà.
Ouais. Pas que, en plus, ça nourrit intellectuellement et aussi économiquement, bien sûr. Mais le sujet de notre activité, c'est la multiplication des plants. Donc, on travaille sur la compréhension des modes de multiplication des plantes. Donc ça peut être par bouturage, par semis bien sûr, par marcottage. Et ensuite, on propose en fait au grand public ces plants pour qu'ils les installent dans leur jardin.
Ou dans leur balcon.
Ou leur balcon, ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de jardin.
Et donc vous avez des fruits, des fleurs, donc on devine ce que vous avez privilégié, mais... plus exactement, qu'est-ce que vous cultivez le plus, qu'est-ce que vous vendez le plus aussi
Alors vous avez en introduction dit plantes à usage, c'est-à-dire que on s'est vite rendu compte que notre passion pour l'alimentation, elle pouvait pas se cantonner à simplement donner à manger, donc notre activité pouvait pas se restreindre à la production de plants potagers pour des jardiniers classiques, on va dire. Il fallait étendre cette notion de plante à usage à des personnes qui avaient envie, par exemple, de se soigner avec les plantes. Donc, on a développé une gamme de plantes médicinales. Très simple, vraiment basique. Et on incite les gens à aller vers ça. On les met en confiance par rapport à leurs envies. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte aussi que le potager, ça suffisait pas. Il fallait aussi que les gens puissent glaner des fruits, que les oiseaux puissent glaner aussi de quoi se nourrir. Et donc, on propose des arbustes et des arbres pour des haies champêtres.
Mais comestibles, enfin...
Comestibles pour nous ou pour les oiseaux,
ouais,
ou
voilà,
pour d'autres animaux.
Ouais.
Mais également, on s'est rendu compte qu'avec le chaos climatique, nos animaux n'avaient plus suffisamment d'herbe à manger. Donc, on a développé une gamme d'arbres et d'arbustes fourragés.
Par exemple, c'est quoi ?
Par exemple, les alisiers, les cornouillers, les sorbiers. Donc, ce sont tous ces arbustes et arbres dont on peut donner aux animaux les feuilles à manger, à brouter.
Alors les animaux, donc c'est pour des agriculteurs en fait là,
des agriculteurs ou des particuliers. Il y a beaucoup de particuliers qui ont des élevages d'agrément maintenant, des tondeuses.
Oui. Oui, c'est ça, des petits moutons par exemple.
Voilà. Donc c'est pour pallier aux pénuries d'herbes en été, dans les périodes sèches.
Ah oui, donc vous étiez déjà, en fait vous avez créé votre exploitation en 2015, donc vous étiez déjà sur ces questions-là de climat, enfin d'adaptation à un changement climatique, ou est-ce que c'est venu très très récemment, enfin peut-être pas cet été quand même?
Non, c'est pas venu cet été, mais oui c'est venu progressivement, parce que quand on met en place une activité, il y a forcément une progression. Donc, on met d'abord en route une activité, et quand cette activité commence à tourner, donc quand je dis ça, c'est que cette gamme que j'ai mis en place au départ, c'était plutôt une gamme assez classique, avec des plants potagers, des plantes ornementales, des aromatiques et des petits fruits. Et c'est par la suite que j'ai mis en place d'autres ateliers, comme dont je vous parlais tout à l'heure, avec les plants fourragers, et puis aussi c'est la production de semences, qui va maintenant jusqu'à la production d'arbres.
D'arbres fruitiers, non, pas forcément, quoi.
Ouais. Pas forcément. C'est-à-dire que maintenant, j'apprends, ce que je dis toujours, j'apprends, parce qu'en observant la nature, j'apprends, mais j'apprends à savoir produire des tilleuls.
Ah oui, oui bah oui, pour faire des tisanes et tout ça, notamment, et de l'ombre dans le jardin. Et oui, alors pour revenir à vos clients, c'est plutôt donc quand même des particuliers. Enfin, vous proposez pas encore des plans pour les agriculteurs ou
Non, alors ça c'est un choix que j'ai fait moi parce que j'estime que justement. Si je veux avoir un impact, je continue à vendre sur les marchés de plein vent, où là, vraiment, c'est le tout venant, hein. Excusez-moi le terme, mais on a vraiment du jardinier amateur classique qui va se faire un potager pour sa saison, jusqu'à des gens qui ont des projets beaucoup plus ambitieux, notamment là, depuis 4-5 ans, où on voit apparaître des profil de gens qui ont quitté la ville, donc des citadins, qui se sont engagés dans une démarche vis-à-vis du vivant, c'est-à-dire qu'ils sont dans une quête de sens, et ils sont en train de mettre en place chez eux des jardins nourriciers, des forêts-jardins.
Donc, la permaculture.
Voilà, avec toutes ces techniques, l'agroforesterie.
Ouais, ils sont pas forcément sur la recherche d'une autonomie alimentaire, mais vraiment de restaurer la nature, enfin, au moins dans leur jardin, quoi, en fait.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'ils sont dans une démarche réparatrice.
Et je vous ai pas posé la question, mais ça tombe presque sous le sens. Vous êtes en bio, finalement.
Oui. L'activité a démarré en bio dès le départ. Elle est certifiée par Ecocert. Après, j'en parlais avec Xavier dans la voiture, un de mes rêves, un projet que j'espère j'arriverai à mener à bien avant d'être totalement épuisé, c'est de passer en biodynamie.
Ça veut dire quoi ça ?
Ça veut dire mettre en place une activité proche d'un modèle qui était celui d'une ferme traditionnelle avec des animaux.
Ah, polyculture élevage, en gros.
Oui, alors quand on dit ça, c'est presque un gros mot, parce qu'en conventionnel, ça fait un peu mal, mais... oui, polyculture élevage, mais sur un modèle artisanal et paysan, quoi.
Oui, oui, vous revendiquez ce statut artisanal, hein, qui est toujours important, Xavier, n'est-ce pas ?
Oui, oui, bah, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à partir du moment où on considère qu'on a une fonction réparatrice, qu'on soit producteur, artisan ou particulier, on met en œuvre tout un tas de compétences et de savoirs qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas acquis, qu'on a, comme tu disais, on apprend tous les jours, on est toujours en apprentissage, parce qu'on a laissé d'autres s'occuper de ces histoires alimentaires, agricoles. Il faut bien récupérer ces savoirs-là. Et ça va bien au-delà de juste planter, récolter, vendre.
Et ouais, ça, on fait de l'expérimentation aussi.
Ouais, ouais. Effectivement. Et cet apprentissage sans fin, c'est pas une recette. On peut dire que c'est une philosophie, mais c'est aussi une façon de se frotter au travail, se frotter au vivant. Et les deux sont pas incompatibles. Et ça mérite effectivement d'être remis au centre d'un métier qui s'appelle l'artisanat. Et l'artisanat, moi, je le décris toujours comme le travail permanent entre notre tête et nos mains. Et dans nos têtes, il faut qu'on y rajoute des tas de choses parce que nos mains sont confrontées à des soucis au quotidien. Et c'est ça que j'ai découvert aussi à travers le métier de Stéphanie. Comment au quotidien, elle est confrontée à des situations bien plus compliquées que dans une cuisine.
Ah oui.
Et parce que en cuisine, on a toujours une solution technique, on a toujours une petite technique qui va bien on arrive encore une fois à jongler parce que on arrive en bout de chaîne et tout ce qui est à partir du moment où ce qui arrive en cuisine est propre et prêt à consommer. Tout le risque a été pris avant. C'est en ça que je dis que le métier d'artisan, il doit être reconsidéré, mais aussi réexpliqué. Que c'est pas une recette, c'est pas un mode d'emploi, et que c'est bien une lecture du vivant. Et si on met pas les mains dedans, alors on n'est jamais confronté au problème auquel on doit réfléchir. Et on en parlait dans la voiture, c'est vraiment ça, effectivement. De quoi on doit se nourrir au-delà des grandes règles agronomiques, de quoi on doit se nourrir aussi pour mieux comprendre le vivant. Et ça va, c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque ça va de plus en plus vite et que l'adaptation doit être de plus en plus rapide. Et l'adaptation des arbres, moi, me questionne. Ça vient pas, c'est pas comme un plant de moutarde. D'une année sur l'autre, on peut l'adapter à un arbre. C'est pas la même chose, et pourtant on a diablement besoin.
Stéphanie Salio, le fait que vous vendiez vos plantes, enfin vos plants sur les marchés de plein vent, comme vous disiez, de fréquenter toutes sortes de clientèles, c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie, je suppose, justement, d'expliquer tout ça, vos expérimentations, vos constats.
Oui, c'est... D'ailleurs, ça va même parfois jusqu'au registre de la psychologie. Hein. Quand on parle de jardin secret, quand les gens vous exposent leurs problématiques au jardin, très vite, on peut arriver à quasiment de la psychanalyse, mais presque. Mais oui, c'est un accompagnement. C'est surtout une mise en confiance. Et reconnaître leurs difficultés, vous parliez tout à l'heure d'un exemple assez, assez emblématique, celui des escargots et des limaces. Les gens me parlent hors très antenne, très souvent de ça. Oui, hors antenne, ouais. Vous me parliez de ça. Mmh. Très souvent, mais comment on fait pour se débarrasser des limaces? Comment on fait pour se débarrasser des limaces? Et moi, je suis... J'ai toujours une réponse assez unanime, c'est-à-dire que je leur dis non, de toute façon les limaces sont extrêmement importantes, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais si elles sont là, c'est parce qu'il y a une raison, et donc il va falloir que vous appreniez à vivre avec.
C'est ça, tout à fait, ouais. C'est ce qu'on fait en général quand on fait des émissions de jardinage sur Radio Évasion, on dit ça aussi, on ne peut pas leur en vouloir complètement, même si on leur en veut un peu. Et vous parliez d'agroécologie, donc effectivement, vu que vous avez des petits surface, vous ne vendez pas des plants en gros à des cultivateurs, mais est-ce que vous pouvez vendre des arbres à des éleveurs plutôt, là, qui vont se mettre à l'agroécologie, c'est-à-dire compatibilité entre des arbres, des animaux, ça peut vous arriver ça éventuellement?
Alors non, parce que la manière dont je travaille ne permet pas de faire des économies d'échelle. Et quand un professionnel veut mettre en place une haie, il va s'adresser plutôt à des pépinières d'arbres, notamment, et là je fais la promo du label végétal local, donc des pépinières qui sont labellisées végétal local, et qui ont un modèle de production qui permet aux consommateurs, entre guillemets, de faire des économies d'échelle, c'est-à-dire de pouvoir acheter des arbres par centaines. Nous, non. Nous, on reste sur notre logique de mettre à disposition du grand public des plants qui ont été engraissés. Ça peut paraître bizarre comme terme, mais on engraisse les plantes. C'est-à-dire qu'on les vend à... Donc pour les herbacées, bien sûr, pas forcément, mais pour des arbres, ils peuvent avoir jusqu'à 2 ans, mais au-delà de 2 ans, ça n'a plus de sens puisqu'on vend les plants en pot. Et on parcourt un peu toute la Bretagne pour pouvoir donner à connaître ces gammes de plants. Et donc, il faut bien les transporter. Donc, on les maintient en pot jusqu'à la limite de l'acceptable pour eux, pour les arbres, je veux dire. Mais en général, on arrive très bien à les vendre au stade d'un an, 2 ans. Mais ça ne peut pas être intéressant économiquement pour des professionnels.
Comment vous faites vos recherches justement de plantes que vous allez engraisser? Comment vous choisissez
Alors, d'abord, j'ai un regard assez international, c'est-à-dire que je vais chiner des graines un peu partout. Partout où je vais, déjà partout où je me déplace, j'ai toujours une poche, un sécateur pour pouvoir prélever. J'adore glaner. Donc partout où je vais, je glane. Et puis surtout, je vais acheter des graines en Allemagne, en Angleterre, au Canada. Tous les moyens sont bons pour essayer de trouver la perle rare quand on est pépiniériste.
N'ayez pas peur de nous faire arriver des invasives, enfin ce qu'on appelle les invasives, les plantes exotiques envahissantes.
J'essaye de faire attention à ça. De toute façon, j'achète à des organismes qui sont des établissements semenciers. Donc, eux, déjà, ont un cahier des charges qui fait qu'ils n'ont pas le droit de vendre des plantes invasives. Donc, c'est surtout des pépites gustatives qu'on recherche.
Ah oui, c'est là qu'on arrive au cuisinier, Xavier.
Bah oui, c'est comme ça.
Est-ce que le cuisinier préconise des plantes à cultiver aux pépiniéristes, et ça pourrait arriver.
Ouais. Ça peut arriver. Oui, bien sûr, ça peut arriver parce qu'on peut être amené, comme Stéphane dit, à voyager et à goûter des choses ailleurs et à avoir envie de retrouver ça en proximité. Donc oui, ça peut arriver. Je me souviens de haricots bulgares qu'on avait collectés avec Christophe Collini en Italie. C'était une rencontre sur un salon international et des fermières bulgares nous avaient mis dans les mains des haricots de toutes les couleurs issus d'un même pied. Et c'était incroyable, j'y croyais même pas jusqu'au jour où Christophe l'a ramené, l'a planté chez lui et on a ouvert la gousse ensemble et on a vu qu'il y avait des couleurs différentes dans les gousses. Voilà, c'était vraie pépite. Alors,
c'était bon, accessoirement.
Si, alors pour le coup, c'est très bon. On est dans le registre de ces haricots qui, quand ils sont bien récoltés, on se coupe un petit coup de châtaigne. Voilà, on se rapproche un peu du tarbet ou du soisson. Et voilà, donc c'était un... Après, la grosse déception, c'est qu'à la cuisson, toutes ces couleurs un peu anthocyanes...
Ça disparaît, ouais,
disparaissent.
C'est vrai.
Et ça fait des bouillons qui sont assez vilains, d'ailleurs. mais par contre, à cru, c'était magnifique. Oui, donc oui, évidemment, on a besoin de ce travail en commun. Et on a aussi besoin de comprendre tout ce qui se passe avant. C'est-à-dire que les périodes de l'année où il y en a, où il n'y en a pas, il y a des années où il n'y en a pas. Encore une fois, le petit grain de riz dont j'ai déjà parlé ici, qui est un petit haricot très, 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 presque rond, très élégant, avec un goût très fin, une pellicule très fine, qui résiste bien à la cuisson. Il est idéal pour les minestrones et on l'a redécouvert ici avec un maraîcher du coin. Et l'an dernier, il n'y en a pas eu.
Ouais,
voilà.
Il faisait
donc,
trop chaud.
L'an dernier, je ne me souviens plus de la raison exacte, mais en tout cas, cette année, il y en a eu à foison.
Ah oui.
Donc, c'est aussi voilà, on peut demander des choses, mais il faut aussi qu'on comprenne qu'on ne les aura pas forcément, ou pas tout de suite, ou pas toutes les années, ou avec intermittence. Et c'est bien là l'intérêt de travailler avec d'autres métiers. Moi, j'ai rarement demandé que quelqu'un produise pour moi quelque chose. Je me suis plutôt adapté à... Stéphanie a en tête 10 000 fois plus d'idées d'aromatiques que moi. Elle les a sous le nez et tu les as goûtées beaucoup plus que moi.
Ah oui.
Donc tu triches, t'as beaucoup trop d'avance pour moi. Mais en tout cas, on se nourrit l'un l'autre. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais la première démarche, elle est venue de Jean et Stéphanie qui avaient un appétit pour le goût. Et ça, c'est très très important parce qu'on peut valoriser ce qu'on veut, on peut remettre en culture ce qu'on veut. Pour le coup, on a participé à une remise en culture de millet. Il va falloir qu'on passe à la phase gustative parce que le millet pour
le
millet,
ça
il
n'y
a à peu près aucun intérêt.
Ouais.
Heureusement qu'on dit, on met à la cuisson des choses qui sont intéressantes.
C'est ça.
Mais il paraît qu'il y a des millets qui sont intéressants gustativement. Là, il faut qu'on y aille. Voilà.
Oui, mais c'est pas grave, parce que comme le millet, c'est plein de, comment dire, de nutriments intéressants, bon, voilà, il suffit de l'assaisonner, en fait, c'est ça.
Alors, ça reste une matière première beaucoup plus intéressante que le blé, notamment. Mais par contre, voilà, si en plus, il y a un aspect gustatif, avec des épis qui sont magnifiques, hein, pour le coup, j'en ai vu, il y a des épis qui sont d'une beauté incroyable, qui feraient du bien dans le paysage.
Ouais, jamais négliger l'esthétique. Stéphanie Salio, qu'est-ce que vous pourriez nous préconiser comme herbe, par exemple, aromatique que vous avez découverte, ou petits fruits, ou qui sont vraiment, pour vous, des découvertes intéressantes, gustativement parlant.
Déjà, moi, ce que j'essaye de conseiller aux gens, c'est déjà par rapport à une base qui peut être la pomme de terre ou qui peut être le riz, le haricot, ou que des fois on n'a pas besoin d'avoir des moyens énormes pour pouvoir se faire plaisir avec le goût, parce qu'il suffirait d'un mélange. Nous, on fait des salades comme ça avec 10 herbes, des salades à 10 herbes. Donc, très simple, on mélange un persil, on mélange un estragon, une coriandre, un basilic, une sauge, et on va tout simplement apprendre à utiliser au mieux ces herbes. Donc je t'explique des recettes très très simples aux gens, par exemple comment faire un beurre de sauge. Alors ça, c'est très très simple, c'est-à-dire vous mettez à infuser des feuilles de sauge dans un beurre en chauffant tout doucement comme ça, et puis vous laissez infuser ces feuilles de sauge dans quelques minutes, vous les retirez et vous versez ça sur vos pommes de terre à vapeur. C'est juste délicieux. Et c'est accessible à tous.
Oui, c'est ça, c'est pas cher.
C'est ça. Et parce en fait, ça permet de manger des pommes de terre quasiment tous les jours, parce que ce jour-là, vous allez faire un beurre de sauge, le lendemain, vous allez mélanger, ce que je vous disais, ces mélanges d'herbes ciselées. Alors, quand je vous dis des raretés, c'est que on va essayer d'aller chercher tout type de coriandre. Donc, par exemple, nous, les coriandres, on en a 4, 5, 6 sortes. Donc, il y a la coriandre marocaine, la coriandre bolivienne, la coriandre vietnamienne, les coriandres vietnamiennes. Donc, c'est...
Qui ont tout un goût de coriandre, quand même, en fait. Hein. Ouais.
Enfin, bah, pas tout à fait. Ah, oui. En fait, leurs usages peuvent être différents. La vietnamienne, elle est particulièrement intéressante dans des bouillons, en infusion.
Bah, elle a vraiment un goût de coriandre, elle, pour le coup, la vietnamienne. Enfin, moi, je trouve. Pas de différence, moi.
Ouais. Je pense que celle dont vous parlez, c'est la marocaine.
Ah, ouais, d'accord. Bah, peut-être alors.
Ce qu'on appelle le persil chinois.
Ouais,
aussi,
je sais pas.
Et ben, c'est la coriandre marocaine.
Et oui, c'est un vrai savoir tout ça. Hein, et,
oui.
Puis ça permet de manger plus végétal aussi et moins carné, moins animal.
Ouais. Mais j'aimerais bien en quelques minutes, peut-être, Stéphanie, justement pour arriver à tout ça. En amont, il y a un travail phénoménal à faire. Le process, par exemple, de sélection d'une graine. Quelles sont les différentes étapes pour qu'on arrive à vraiment se faire plaisir avec un beurre de sauge, entre la graine, la sélection, le tri?
Alors, en fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas tellement un travail de sélection, mais c'est plutôt le travail de constitution d'une souche. C'est-à-dire qu'une graine, c'est quelque chose... Au départ, ça ne tombe pas du ciel, donc tu vas aller chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, chez des fournisseurs à droite à gauche. Tu vas découvrir, donc à travers un sachet de graines, une espèce et pourquoi pas une variété. Tu vas la mettre en culture chez toi, et ce que j'appellerais la souche, c'est ce triptyque entre l'environnement dans lequel elle grandit, la personne qui l'a fait pousser et ses caractéristiques génétiques. Et c'est là-dessus que tu vas démarrer. Donc, une fois que tu as constitué ta souche, qui peut prendre un an, deux ans, pendant lesquels tu vas la cultiver, tu vas l'observer, tu vas regarder à quel moment c'est le plus intéressant de récolter les graines, quand elles ont vraiment atteint leur stade de maturité. Est-ce que tu vas y arriver, déjà? Moi, j'arrive pas à faire des graines de basilic, par exemple. J'arrive toujours pas. Donc, tu vas observer pendant un an ou deux, tu vas mettre en culture ces variétés, cette espèce, et ensuite tu vas la multiplier. Donc, ça passe par une mise en culture, ensuite la récolte des graines, l'extraction des graines, le tri, et ensuite donc la conservation. Donc, ce sont ces étapes-là qu'il faut un peu apprendre à maîtriser.
Et d'ailleurs, Stéphanie fait partie de Graines de Liberté, donc puisqu'il nous reste une minute pour en parler, de Graines de Liberté, qui est une coopérative semencière, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est une coopérative d'intérêt collectif qui a été créée là en janvier 2022 et qui a pour but de donner, de promouvoir des variétés population, c'est-à-dire des variétés qui sont libres de droits aussi et qui ont donc des caractéristiques variétales, mais tout en étant, chaque graine est un individu à part entière, avec ses caractéristiques et son patrimoine génétique. Il n'y a pas de standardisation, il n'y a pas d'homogénéité, il y a justement un travail sur la biodiversité cultivée.
Ces graines, on les trouve un peu partout. Hein. Enfin, là, chez nous, c'est les fous de vrac, par exemple, les magazines de vrac, ça peut être des Biocoop, c'est ça
C'est ouais. Ça, et puis il y a une vente par Internet maintenant. Oui. Qui est active. Alors, c'est pas la période la plus.
Oui, c'est pas la meilleure période.
Mais par contre, on peut déjà aller regarder ce qu'il y a sur le site de Graines de Liberté. Mais en tout cas, c'était important de comprendre, tu as dit, une à deux années d'observation. Et pour moi, c'est fondamental, cette notion du temps. Encore une fois, à un moment donné où on veut tout de suite maintenant, parce qu'on a été habitué à ça, en fait, remettre ce temps en perspective. Et c'est bien ce temps-là qu'on doit s'offrir le luxe de rémunérer, plus que le produit en lui-même.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais bon, le temps est écoulé pour ce qui concerne cette émission. Merci beaucoup à tous les
Véronique.
Deux.
Merci Véronique.
Merci beaucoup.
Et bien sûr, l'Université des sciences et pratiques astronomiques revient le mois prochain.